On a souvent parlé de la vertu des personnes âgées, et là, je suis heureux de m'apercevoir, c'est encore d'actualité, outre-Rhin. Vous avez entendu? Il y a un papy qui a gardé sa fille et ses enfants toute sa vie. Certainement qu'il avait peur qu'il lui arrive quelque chose à l'extérieur.
J'avais dit que je serais le président des droits de l'homme, mais je crois qu'on m'a mal compris. Les droits de l'homme, c'est moi. C'est moi l'homme. Et mes droits, c'est de pouvoir vendre des centrales nucléaires un petit peu partout, à des régimes démocratiques. Par exemple, la Tunisie de M. Ben Ali, c'est un pays démocratique sur une voie étroite. Elle est bien partie. La Chine de M. Jintao, ben c'est pareil, c'est un pays démocratique, il a été élu. Et l'Arabie Saoudite, c'est pareil. Donc voilà, ma conception des droits de l'homme, c'est celle de pouvoir vendre plein de choses. Et l'homme, c'est moi, avec un grand H, même si je suis petit par la taille. Il faut que les Français comprennent bien ça. Ok ? Voilà, c'était Lucas de Picardie. C'est assez marrant d'entendre nos journalistes de France Inter parler des droits de l'homme en Tunisie, mais sans vraiment s'y arrêter, quoi. Bon, ben, ça fait un peu pitié, quoi, mais c'est pas grave. Allez, on a un président en or et j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible parce qu'il est vraiment génial. Il est temps de battre notre coulpe et arrêter de le critiquer parce que ce mec-là, il est vraiment, vraiment super. Allez, ciao.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les droits de l'homme en Tunisie? J'ai vendu 13 Airbus hier. Qu'est-ce que je m'en fous des droits de l'homme en Tunisie? Allez, laissez-moi compter. Enfoiré, hein.
Bonjour, je venais d'entendre Sarkozy et son pitoyable discours de Tunis, créditant Ben Ali d'ouverture, de progrès, de pas vers la démocratie. Les Tunisiens luttant pour les droits de l'homme vont apprécier. Après, j'ai eu droit à un de mes valses, qui en fait de valse nous servit une danse macabre autour du scalp du socialisme. Encore un pseudo-socialo sarco-compatible. L'avenir n'est pas très souriant. Je jette un œil dehors. Ciel noir, grosse pluie, putain de journée. Ça démarre mal.
Bonjour toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, Isabelle en Bretagne. C'est juste pour vous dire que, et pour rappeler, suite au voyage de notre cher président en Tunisie, que toutes les entreprises françaises qui s'installent en Tunisie sont exonérées totalement de charges pendant 10 années. Et qu'il y en a quelques-unes qui sont indélicates et qui, au bout de la 8e année et demie, 9e, ferment boutique du jour au lendemain en laissant en plan des centaines d'ouvriers et d'ouvrières qui n'ont pas de congés payés, qui sont à la botte de leur patron tunisien corrompu et qui ne touchent même pas le SMIC minimum. Voilà, donc il faut juste rappeler ça, que les beaux contrats qu'ils signent, y a des contreparties et que nous, les entreprises françaises, comme France Télécom qui délocalise, Adidas et autres, ce sont tout bénéfices pour eux, voilà.
Au cas où vous ne seriez pas encore convaincu du fait que nous avons subi un terrible lavage de cerveau dans les semaines précédentes au sujet du Tibet et de l'Inde, la Chine, il suffit d'écouter le traitement de la visite de notre président en Tunisie. Tunisie, pays où les droits de l'homme sont bien évidemment respectés, où les journalistes ne sont jamais emprisonnés, où il n'y a jamais de jugement arbitraire, où la justice est complètement indépendante du pouvoir, où il n'y a personne dans les prisons qui se fait torturer régulièrement. Non, 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 tout cela n'arrive pas. Il n'y a même pas de réfugiés tunisiens en France, d'ailleurs, pour le dire. D'ailleurs, comment ça s'appelle RSF ne parle quasiment jamais des journalistes emprisonnés en Tunisie parce qu'il n'y en a pas, voyez-vous. Et bien justement, c'est bien ce qu'on nous dit, monsieur notre président a dit que ça allait dans le bon sens, et puis c'est ce qu'on répète gentiment aux informations sur France Inter et je suppose ailleurs, et là il n'y a personne pour pousser des hauts cris parce qu'on va en Tunisie. Voilà, alors comme quoi, l'histoire des droits de l'homme, c'est bien quand ça nous sert qu'on s'en sert, aussi bien au niveau des médias qu'au niveau des pouvoirs. Après, les braves gens qui suivent, c'est une autre histoire. Mais on se fait manipuler. Il faut bien le savoir. C'était Françoise de Paris.
Oui, bonjour. Alors, j'ai pas écouté les émissions sur la caisse noire de l'UMM, etc. Donc, je sais pas si vous avez abordé ce sujet-là. Mais je me demande si cette affaire sort pas aussi à un moment un peu opportun, dans la mesure où il y a une guerre d'influence au sein du MEDEF entre la métallurgie et le secteur des services pour essayer de recentrer le pôle de gravité du MEDEF sur les ses membres issus des services, ce qui est extrêmement difficile vu le poids financier et historique de l'UMM au sein de l'organisation. Voilà. Et Laurence Parisot, qui tombe de l'armoire, est elle-même une représentante de ce secteur des services, et c'est une des toutes premières. Voilà. Et d'ailleurs, elle a eu quelques difficultés avec les patrons de la métallurgie. Voilà. Donc, bon, peut-être que ça tombe un peu bien dans cette guerre interne au MEDEF, cette affaire de l'UMM. Et peut-être que la BNP, qui a communiqué ses retraits d'argent en espèces au pôle financier des services fiscaux, si elle a peur de se faire gauler pour complicité de blanchiment, ou si jamais elle... Si jamais elle tente plutôt de se positionner dans le cadre de la restructuration du MEDEF auquel elle participe comme toutes les grandes banques. Voilà, donc je sais pas si vous en avez parlé, je le saurai plus tard en écoutant vos émissions sur le net, et si vous en avez pas parlé, vous pouvez peut-être creuser aussi cet aspect-là des choses, si vous en avez l'occasion. Voilà, bonne continuation, au revoir.
Bonjour, je suis une auditrice fidèle de la base j'y suis. Je viens d'écouter les émissions sur l'UMM et ça m'a rappelé un souvenir très précis. Mon mari, qui n'était pas encore mon mari à ce moment-là, au moment où il a quitté l'armée, il était à la Légion, cherchait du travail, on lui a proposé du travail dans une entreprise de sécurité, ce qui était banal à ce moment-là, c'était en 71. Donc une entreprise de sécurité, on l'a mis en poste à Peugeot, au siège social à Paris, je crois. Et voilà, donc il arrive à son travail, et puis dans la journée, il est convoqué par quelqu'un de l'entreprise Peugeot, qui lui dit qu'il est là pour assurer la sécurité, mais pour aussi surveiller les allées et venues et ce qui est dit dans les couloirs. Et on lui propose un double salaire pour apporter quotidiennement ce qu'il entend dans les couloirs. Inutile de vous dire, enfin vous le connaissiez pas, mais enfin c'était pas trop son style. Donc il est parti immédiatement, il a rompu le contrat. Et puis après il était un peu tricard dans les services de recherche d'emploi à la sortie de l'armée. Voilà, donc Peugeot fonctionnait comme ça, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas. Ce serait intéressant que vous alliez voir du côté des entreprises de sécurité. Il n'y a pas que les milices patronales en civil, il y en a d'autres. Merci pour vos émissions, continuez, on vous soutient.
Bonjour, le collectif de citoyens qui avait organisé le rassemblement de mai 2007 au Glières en Haute-Savoie, suite à la venue du candidat à l'élection présidentielle Nicolas Sarkozy, appelle à un regroupement sur le plateau le dimanche 4 mai 2008 pour réaffirmer leur soutien à ce qu'a été le programme du Conseil national de la résistance et les valeurs de la République qui lui sont rattachées. Parce qu'ils ont osé résister, parce qu'ils n'étaient pas nombreux et que l'histoire leur a donné raison, parce que cette histoire est notre histoire, parce que le plateau des Glières est un bien commun et que personne ne peut se l'approprier, soyons nombreux à écouter et relayer les valeurs du Conseil national de la résistance. N'oublions pas, comme le disait Lucie Aubrac, résister se conjugue au présent. Stéphane Hessel, écrivain, ancien résistant et déporté, ancien ambassadeur et humaniste, prendra la parole. Rendez-vous le dimanche 4 mai à 11h au plateau des Glières pour écouter le témoignage d'anciens résistants et pique-niquer. Au revoir et à dimanche.
Voilà, ne pas manquer ce rendez-vous de dimanche au plateau des Glières, c'est au-dessus d'Annecy, hein, en Haute-Savoie, à 11h, donc réunion, grand rassemblement, suivi d'un pique-nique. Et vous avez compris, on célébrera les valeurs du CNR, de la résistance, en présence de Stéphane Hessel et de résistants. Vous vous souvenez que l'an passé, on avait fait un reportage là-bas, qu'on a rediffusé cette année, pour célébrer la visite de notre président de la République sur ce site historique. Alors voilà, vous avez compris, des commentaires sur l'UIMM et sur le financement des syndicats qu'on a évoqué hier, beaucoup de témoignages précieux. Aujourd'hui, dernier volet de cette série. Et ça finit bien. C'est une histoire qui finit très très bien grâce à notre ami Laurence. Vous savez que nous, là-bas, si j'y suis, on est tous derrière Laurence qui fait le ménage dans cette affaire après qu'elle soit la pauvrette tombée de l'armoire et qui installe de la transparence, qui tourne la page. C'est vraiment la rupture. Et donc tout va se terminer pour le au mieux. Même si c'est encore l'affaire est encore en cours d'instruction et c'est une instruction lente, c'est une enquête un peu molle. On va en parler. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, c'est suite à votre émission, c'était pour un petit témoignage. Voilà, j'ai été délégué syndical CFDT sur une base Intermarché, rien à voir avec la métallurgie. C'était pour dire que moi, à la CFDT, j'étais le délégué syndical, j'ai eu un des délégués qui s'est retourné contre notre section pour faire plaisir à notre employeur. Et mon copain de la section CGT a vu deux des délégués CGT élu au comité d'entreprise trahir aussi joyeusement la section, tout ça pour faire plaisir au patron, pour partager le petit apéro, pour des petites choses minables. Alors il faut pas se laisser décourager, la corruption elle est souvent simplement individuelle, c'est juste le fait d'un bonhomme qui a aussi des fois envie de faire plaisir à son patron plus que parce qu'il ne croit pas vraiment à la lutte. Faut pas se laisser décourager par tout ça, il faut continuer, faut s'accrocher et il faut résister. Voilà, c'est un petit témoignage de pas grand chose, mais bon, bonne chance à tous, bon courage à tous. Allez, ciao.
Bonjour, Daniel de Saint-Sauveur. Le mardi 29 avril, le collège Colette de Saint-Sauveur est mort. Avant-goût de ce qui se passera d'ici quelques années. Alors que les habitants de Puisé viennent manifester leur soutien ou donner leur avis ce mardi 29 à partir de 14h. Bonjour à l'équipe, continuez, on a besoin de vous. Salut.
Oui, bonjour. Je viens d'entendre à l'instant sur France Inter qu'on allait pouvoir implanter des surfaces commerciales de 1000 m² un peu partout. Tout ça pour soi-disant favoriser la concurrence entre enseignes. Voilà, alors je suis très très en colère parce que je pense que c'est la trilogie béton, goudron, pognon qui est en train de l'emporter et que la conscience écologique de Monsieur Sarkozy est vraiment très très limitée. On va bétonner, on va construire encore des parkings, des grandes surfaces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Où sont les promesses du Grenelle de l'environnement? Bon, je suis très très en colère. Et voilà, je remercie Daniel de contribuer à fédérer la résistance. Voilà. Merci. Mireille de Bois.
Oui, Daniel, disons, l'IUMM, il s'agit bien d'une association de malfaiteurs. Donc on n'a pas de soucis à faire, puisque le petit Nicolas, il va nous nettoyer tout ça rapidos au Karcher. Et puis tiens, autre chose qui me venait à l'esprit, vous savez qu'en Alsace, en dehors des bâtiments administratifs et publics, les maisons n'ont pas le droit d'être blanches, ni noires d'ailleurs. Alors pour les caisses, moi je propose qu'on interdise les caisses noires, qu'on les fasse, d'une autre couleur. Alors pas rouge, ça serait trop rouge. On pourrait les faire transparentes, hein, comme ça, ça plaira à la petite Laurence là de chez les patrons.
Je voulais vous raconter un spectacle qui s'est déroulé il y a quelques jours dans l'Ardèche. Bourg-Saint-Andéol, un petit village somnolent au bord du Rhône, s'est trouvé tout d'un coup investi par un commando de ce qui se fait de plus moderne, de plus redoutable en matière de force d'intervention du GIGN. Pendant 48 heures, rues barrées, circulation bloquée, habitants consignés dans leur maison et déploiement de la troupe d'élite, redoutables combattants déguisés en Robocop. Qui était cerné, traqué et bientôt assailli par cet impressionnant dispositif? Était-ce Ben Laden, le Mollah Omar ou peut-être un dangereux serial killer? Non, c'était Yolande, une pauvre vieille femme de 69 ans, menacée d'expulsion, et qui avait eu la mauvaise idée de se saisir d'une carabine pour défendre son malheureux deux pièces au rez-de-chaussée. Épilogue du spectacle, les troupes d'élite du GIGN ont investi le petit logement et sont reparties. Yolande est morte. Le maire, un certain Martinez, a déploré l'incident. Il paraît qu'il y a un service social à la mairie de Bourg-Saint-Andéol. Ah, j'oubliais de préciser, ce n'est pas un gag, la scène se déroulait boulevard Rambaud.
Bonjour, Fred de l'Isère. Donc, une petite info. Un accident de train a été évité de peu, tôt samedi matin à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, lorsqu'un convoi de fret de l'opérateur privé Veolia, tiens, un opérateur privé, qui devait s'arrêter dans la gare, a été dans l'impossibilité de le faire en raison d'un problème de freinage. Le train a mis 3000 mètres pour s'arrêter en urgence, soit plus qu'en freinage normal. Le train a traversé la gare à plus de 60 km/h. On est passé pas très loin d'une catastrophe, comme l'a commenté le copain de la CGT Cheminots de la Haute-Garonne, soulignant que le non-respect des signaux aurait pu causer une collision avec un train SNCF. Mais la CGT Cheminots demande une enquête immédiate pour faire toute la lumière sur les causes de cet incident et pointe du doigt les entreprises privées qui ne respectent pas les prescriptions de sécurité en sous-traitant les opérations de vérification des trains et à d'autres entreprises. Elle demande que les trains soient vérifiés par des agents SNCF et la création d'une convention collective pour les travailleurs du rail basée sur le règlement SNCF. Alors à ceux qui critiquent la SNCF et son personnel, ses privilégiés, qu'ils n'oublient pas que c'est le garant de la sécurité et que le privé, ben, comme on le voit, il n'est garant de rien du tout.
C'est bon, Daniel, ma lobotomisation arrive à terme. Je deviens un bon mermessien. Étape numéro 1. Ah, bah, les patrons, ce sont tous des voyous, des bandits et des voleurs. Étape numéro 2. Les petits salariés sont escroqués, expoliés par tout le capitalisme. Étape numéro 3. Il faut continuer à lutter. Luttons, nous, les mermessiens. Nous n'abandonnerons pas la lutte. Je suis un vrai mermessien.
Je crois qu'il est temps que l'UIMM passe à autre chose.
On a assisté dans l'affaire de l'UIMM à un vrai blocage judiciaire.
À quoi servait cet argent ?
Fluidifier les relations sociales.
Valise de billets pour acheter, selon lui, la paix sociale.
L'argent noir est nécessairement quelque chose qui est non démocratique, qui porte atteinte à la démocratie.
C'est aussi quelque chose que, probablement, beaucoup savaient inconsciemment.
Le pouvoir politique a délibérément choisi d'enterrer le dossier.
L'enquête continue.
C'est Daniel Mermet, la base où j'y suis, avec Renaud Lambert. Fluidifions.
Flight number 2, arriving from...
Une autre affaire de gros sous avec un nouvel épisode dans le feuilleton de l'UIMM. Maintenant, Denis Gauthier-Sauvagnac a obtenu une indemnité de 1,5 million d'euros avant de quitter son poste. La présidente du MEDEF, Laurence Parisot, a interrompu ses vacances pour tirer au clair cette nouvelle affaire.
Les lumières, qu'est-ce que les lumières ? C'est ce dont nous sommes les héritiers. Nous autres Français, démocrates et républicains, héritiers des Lumières. C'est quoi les Lumières ? Les Lumières, c'est le triomphe de la raison sur l'irrationnel. C'est le triomphe de la lumière, du soleil, du jour sur les ténèbres. C'est le triomphe de la transparence sur l'opacité, c'est le triomphe de la lumineuse et blanche colombe sur les reptiles grouillant dans leurs marigots. C'est la main de la justice qui arrête le bras du patron assassin qui étrangle l'ouvrier, la veuve et l'orphelin. La lumière, c'est Laurence. Oui, c'est Laurence, Laurence Parisot, sur son armure, sur son cheval, avec sa bannière, où l'on peut lire M-E-D-E-F, MEDEF, avec les patrons qui la suivent et qui disent « Nous sommes tous des patrons transparents », avec Patrick Devedjian de la droite décomplexée qui en appelle à un capitalisme moral, avec Michel Rocard, l'ami d'Ernest Antoine Sellière et représentant distingué de la gauche décomplexée qui se languit de bons patrons respectables et intègres, comme il l'écrivait dans Le Monde du 6 mars dernier, et pour qui, devant le danger de voir, je cite, le capitalisme sombrer sous l'immoralité, eh bien, il pense que le combat de Madame Parisot nous concerne tous. Et il a bien raison, Michel Rocard. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16 heures. Même si, l'éminent Nicolas Bavrez expliquait dans les colonnes du Monde, il n'y a pas si longtemps, le 12 mars dernier, je le cite, « L'entreprise ne peut ni s'autoréguler, ni se trouver soumise à un principe de responsabilité illimitée. Le gouvernement d'entreprise a privilégié le seul point de vue des actionnaires. » D'ailleurs, continue Nicolas Bavrez, ce choc de défiance, il peut parler de l'affaire lui-même, intervient après 2 décennies de débats et de réformes destinées à améliorer et moraliser le gouvernement, des entreprises et des marchés. Sujet passionnant. Un facochère peut-il devenir un paon? Un tigre peut-il manger de la luzerne? C'est ce que nous allons savoir d'ici à 16h dans la basse édition.
Que sommes-nous face au nombril du nombre, que de la surface des sondages d'ombre, des statistiques et de l'audimat, des numéros d'ordre et du personnel, misère de cancer, plus il y a de nombre et plus son crédit a de subventions. En nombre décombres, pour la première fois, un et un dieu, la spéculation bouge de la raison. Si je ne m'abuse, depuis le docteur m'abuse, c'est en stock option qu'on fait du poison. De et de 20 dieux, c'est pour du pognon, comme si d'Artempion presse son citron. Plus il y a du plus, ça se chiffre à plus, c'est qu'on va tous plus se payer leurs astuces. Trois et trois, 33, le docteur Marteau qui fait son grand show. Du chiffre qui dit, je fais mon numéro de Vox Populi, c'est pour mon credo. Je fais du petit profit, pas de petit profit, c'est pour ma survie. Sans philanthropie, que je donne le tournis à tous mes amis, que je donne le tournis à tous mes amis. Que sommes-nous face au monde du nombre, où s'arrêtera cette surenchère? On est comme des rats à deux pieds sous terre, on va se faire taire après nos artères. Le jour où le nombre sera seul à terre, le jour où la terre sera seule. Que sommes-nous face au nombre du nombre, que de la surface un sondage d'ombre? Que sommes-nous face au nombre du nombre, dans ce face à face un nombre décombre? Que sommes-nous face au nombre du nombre? Nous sommes chacun face au péril du monde, à ce qui nous fait face au nombre du nombre, qui fait que les chiffres dépassent les chiffres, qui s'écrivent en lettres bien plus grand que l'être, qui nous dit tout net qu'un jour la planète s'arrête à la net.
Pas de panique, face au nombril du nombre. nous allons apporter toute la lumière et toute la transparence. C'est promis, c'est dit, c'est répété. La preuve, Laurence Parisot a interrompu ses vacances, donc on est en bonne voie. Qu'en pense Éric de Couty, journaliste qui nous a accompagnés tout au cours de cette enquête? Je rappelle qu'il est ancien journaliste au Figaro, grand reporter à Marianne. C'est lui qui a révélé l'affaire en septembre 2007. Alors, Éric de Couty, où en sommes-nous aujourd'hui?
Alors justement, venons-en à l'enquête judiciaire. Elle traîne un tout petit peu. Il se trouve qu'au même moment qu'a éclaté cette affaire, il y avait l'affaire Kerviel, le trader qui a produit la banqueroute ou une partie de la banqueroute de la Société Générale. Alors pour Kerviel, tout est allé très vite. Pour Denis Gauthier-Sauvagnac, ça a pris son temps, même énormément de temps.
Ah ben c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on a assisté dans l'affaire de l'UIMM à un vrai blocage judiciaire. Pendant 4 mois, on va rester en enquête préliminaire. Qu'est-ce que ça veut dire, enquête préliminaire? Ça veut dire qu'on fait des vérifications très tranquillement. Que c'est le pouvoir politique, le parquet, donc le pouvoir politique qui contrôle le dossier. Et pendant 4 mois, messieurs Denis Gauthier-Sauvagnac vont être vaguement entendus et des documents vont partir. Et surtout, et le parallèle avec Kerviel est pertinent, c'est que pendant toute cette période-là, les gens du patronat vont s'arranger pour négocier ce qu'on appelle le prix du silence, pour verser, vous savez, le fameux pactole à Gauthier-Sauvagnac en échange de son silence. Dans l'affaire Kerviel, on voit quoi? Le lendemain de la révélation des faits, Monsieur Kerviel est arrêté. Monsieur Kerviel est mis en examen. Monsieur Kerviel est placé en détention. Je ne dis pas qu'il fallait jeter Monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac en prison. Je dis simplement que dans n'importe quelle autre affaire de cette importance-là, dans toutes les affaires de cette importance-là, et vous pouvez me faire confiance, ça fait 20 ans que je baigne là-dedans, dans les affaires de financement. Les gens qui sont en cause ont interdiction de se rencontrer. C'est le béaba de l'enquête. Qu'a fait le procureur de la République de Paris? Surtout pas ça. Il a laissé faire pour qu'elle puisse se rencontrer, se concerter et organiser la défense. Kerviel, c'est exactement le contraire. C'est selon que vous soyez puissant ou misérable, la justice ne fonctionnera pas de la même façon. C'est La Fontaine. Mais ça sous-entend quelque chose de plus grave. Ça sous-entend que la justice et le pouvoir politique en place aujourd'hui ne veut pas de la vérité sur cette affaire. Et vous avez probablement remarqué que depuis le début, la classe politique parle de transparence, parle de rénovation, de renaissance, mais personne, à part quelques voix à gauche, bien modeste, mais la plupart, en tous les cas à droite, personne ne dit « on veut savoir comment la caisse noire du patronat a été alimentée et où est allé l'argent ». Et quand on ne veut pas savoir, mécaniquement, moi, et sans doute vous aussi, on se pose la question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez pas savoir? Vous avez quelque chose à cacher? Et je crois que la classe politique, aujourd'hui, peut-être pas dans son intégralité, mais dans sa grande part, a quelque chose à craindre de l'affaire de l'UIMM.
C'est ça. Récemment, une affaire a déclenché beaucoup d'émoi dans la classe politique, l'affaire de cette banderole qui exprimait une forme de racisme contre les gens du nord de la France, les ch'tis. On s'aperçoit que là, beaucoup est fait pour essayer de voir qui a fait quoi. Ce que vous nous dites, c'est que si ça avait été l'affaire UMM, on aurait simplement dit, bah voilà, ça n'arrivera plus, maintenant il n'y aura plus de banderole dans les stades. Mais on n'aurait pas creusé. Alors que là, pour cette banderole, on creuse, on creuse, on creuse.
C'est absolument. Alors, c'est pas comparable sur le fond, mais c'est exactement comparable dans la mécanique politique et judiciaire. C'est-à-dire que tout de suite on intervient dans l'affaire de la banderole et on emploie des grands moyens. J'ai vu l'expertise ADN, etc. Dans l'affaire de l'UMM, on fait des convocations extrêmement tranquilles, laisser le temps, ces gens-là se concertent. Sur ordre ou pas, la justice cherche à enterrer un vrai scandale politique.
Il arrive souvent que l'opinion, oserais-je dire la presse, se choque de phénomènes qui sont ordinaires. Et une indemnité départ dans le cadre d'une mise à la retraite ne me paraît pas quelque chose qui soit si singulier que cela dans le monde du travail.
Et non, c'est pas un imitateur, c'est Jean-Yves Le Borgne, oui, l'avocat de Denis Gauthier-Sauvagnat. Alors, Éric de Couty charge quand même la barque. Il en a des soupçons, ce journaliste qui enquête heure par heure sur cette affaire et qui a du pain sur la planche avec ce feuilleton et cette enquête molle. Mais pourquoi, mon Dieu, aurait-on intérêt à enterrer l'affaire ? Qui a intérêt à enterrer cette affaire ? Eh bien, voici monsieur Roland Museau, député PC, ancien sénateur, qui a son point de vue. Éric de Couty vient nous dire qu'il y a tout de même quelques voix à gauche bien modestes qui s'expriment.
Je crois que le MEDEF ne dit pas la vérité aujourd'hui. Les dirigeants du MEDEF actuel cachent ce qui a toujours été une pratique d'organisation patronale. Il y a d'ailleurs, dans les derniers jours, il y a le cas d'un ancien président du CNPF qui est épinglé parce qu'il est logé gratuitement et il touchait une retraite complémentaire au noir de 5000 euros par mois.
Vous faites référence à François Sérac ?
Oui, bien sûr. Mais des cas comme ça, il y en a probablement des dizaines, voire des centaines. Et ce que je crois, il ne faudrait pas se focaliser uniquement sur l'UIMM, qui est la branche métallurgie du patronat, qui était le bras armé le plus actif d'un point de vue visible, et la plus puissante fédération du patronat en général. Mais dans la chimie, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai été amené à dénoncer, par exemple, un document de la société Arkema, qui est une filiale de Total, qui donnait un lexique de la démarche à suivre pour empêcher que les salariés puissent faire reconnaître leur maladie professionnelle, notamment les cancers liés à l'amiante.
Vous avez évoqué tout à l'heure le prix du silence. On peut peut-être expliquer un petit peu ce qu'on entend par là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de l'enquête préliminaire et pourquoi est-ce que Denis Gauthier-Sauvagnac ne s'exprime-t-il pas aujourd'hui ?
Alors, Éric de Couty. C'est assez amusant parce que on est. Est-ce que vous me permettez un gros mot ? on est dans le bal des faux culs depuis le début dans cette histoire. C'est que donc pendant la période de l'enquête où ces gens-là ont fait disparaître gaillardement des tas de documents, hein, c'est un fait acquis, même acté par la justice, ils étaient très tranquilles. Monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac dit officiellement devant la presse, puisque c'est ça, je quitte l'UIMM. Et nous, médias, en tous les cas, on le gobe, on dit, oh, ça y est, il est parti. De fait, monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac avait quitté la présidence de l'UMM, qui est un poste bénévole et non opérationnel, l'équivalent de la présidence de la République sous la 3e et la 4e République, hein, inaugure les chrysanthèmes. Mais monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac reste secrétaire général, le vrai patron de la boutique, rémunéré, je crois que c'est plus c'est 12 000 ou 20 000 euros par mois. Vraiment un poste. Et que va-t-il faire là ? Il va se passer une négociation occulte entre le bureau de l'UMM et M. Nicolas pour deux choses. La première, pour son départ, et la deuxième, pour son silence. M. Denis Gauthier-Sauvagnac dit, moi, je ne dirai rien à la justice, mais, en ce sens, tout va me retomber sur le nez. Et donc, je vais avoir des conséquences financières considérables pour moi. Donc, les dirigeants de l'UMM lui disent, écoutez, très bien, continuez à garder le silence et vous inquiétez pas, lorsque vous serez condamné à payer, c'est nous qui paierons. Et donc, pactole, on verse à M. Denis Gauthier-Sauvagnac une prime d'1,5 million d'euros et on lui garantit qu'il n'aura rien à payer, ce sera le patronat de la métallurgie qui, au final, paiera les condamnations. Et tout ça, c'est important, c'est pas seulement une discussion de bout de gras entre gens de bonne compagnie, c'est une discussion qui va être actée juridiquement. Et ça va faire l'objet d'un contrat et d'un avenant où il est écrit, monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac n'aura pas à payer en substance les condamnations éventuelles, elles seront à la charge de lui-même. Étant induit que, à la condition, évidemment, qu'il ne dise rien sur le fonctionnement de la caisse noire.
Vous l'avez vu ce contrat ou comment vous savez ?
Oui, on l'a vu. Bah, moi, je l'ai révélé le 29 février, je crois, dans Marianne. Et aujourd'hui, le contrat, tout le monde l'a vu, puisqu'il a été dénoncé puis remis à la justice. Et entre parenthèses, le procureur de la République de Paris, on parlait de la justice, quasiment avant d'avoir reçu officiellement ce contrat, il a dit « moi, je trouve rien à redire ». C'est quand même un peu gros. On a des gens qui... Ça existe dans les entreprises, des négociations, et on part d'une entreprise avec de l'argent, c'est acté. Il y a une clause de confidentialité. Là, on n'est pas dans une clause de confidentialité, puisqu'on est dans une procédure judiciaire. On est dans une enquête de justice. Et curieusement, le procureur, moi, ça me rend fou. Le procureur de la République de Paris dit « Non, écoutez, moi, je trouve ça formidable ».
En fait, ce sont des gens qui clament leur innocence, mais qui ont à ce point confiance en leur innocence qu'ils prévoient déjà les coûts financiers d'une inculpation judiciaire.
Ils ne clament pas leur innocence. Et ils ont cette espèce de pudeur, c'est qu'ils ne clament pas leur innocence. Ils ne disent pas grand-chose, puisque de toute façon, il n'y a pas grand monde qui les embête. Le juge les embête pas trop. Simplement, ils s'arrangent pour dire « leur rage va passer ». L'essentiel, c'est qu'on sauve le secret. Et ensuite, une fois que le secret sera sauvé, on va s'arranger financièrement.
Denis Gauthier-Sauvagnac, lui, est resté muet aujourd'hui. Comble de l'histoire, il a gardé un poste de délégué général à l'UIMM pour un salaire de 20 000 euros par mois.
Écoutez, il y a eu l'UIMM avant Monsieur Saint-Jour et il y aura l'UIMM avec Monsieur Saint-Jour et après Monsieur Saint-Jour. Donc aujourd'hui, il faut mettre en place, et c'est ce qu'il est en train de faire, de la transparence, de la modernité. Il est en train de revoir les statuts, il est en train de rentrer dans une logique qui est tout à fait celle que nous avons déjà mise en place depuis quelques années au sein du MEDEF, et c'est tant mieux. Nous voulons travailler avec tout le monde, et on ne veut plus regarder ce qui s'est passé, on veut en revanche construire l'avenir et regarder résolument devant.
Mais oui, mais bien sûr, arrêtez de regarder toujours dans le rétroviseur le passé. Le passé, c'est du passé. Ainsi parle Hélène Molinari, directrice générale adjointe et bras droit de Laurence Parisot. Avant de continuer d'entendre ces précieuses paroles, il faut évoquer Nicolas Bavrez. Vous voyez qui est Nicolas Bavrez? C'est ce chroniqueur du journal du quotidien Le Monde, aussi chroniqueur pour Le Point, un grand spécialiste d'un peu tout, notamment de l'économie, mais aussi c'est un déclinologue. C'est quelqu'un qui est l'auteur, par exemple, d'un livre qui s'intitule « La France qui tombe, un constat clinique du déclin français ». Nous sommes en déclin, et voici Hélène Molinari qui nous cause, à nous.
Alors, la semaine dernière, Nicolas Bavrez, qu'on a pas lui aux uns de présenter et qu'on ne saurait accuser d'être un dangereux gauchiste, expliquait que ce qui se posait à nous aujourd'hui comme question, c'était une question sur la moralité du capitalisme. Il expliquait que ça fait 20 ans que l'on cherche à apporter plus d'éthique, plus de transparence, et que bon, selon lui, les efforts n'avaient pas réellement abouti. Alors vous pensez que ça sera possible?
Oui, nous pensons que c'est possible et nous pensons que c'est nécessaire. On veut réconcilier les Français avec l'entreprise. On veut aussi réconcilier les Français avec l'économie de marché.
Ils sont un peu fâchés, hein. Comme vous le savez, il y a un sondage de 2004 de l'Université de Maryland qui montre qu'en France, plus que dans tout autre pays européen et même beaucoup de pays au monde, la majorité des Français rejettent l'économie de marché.
Oui, je pense que c'est en train d'évoluer, et tant mieux, puisque maintenant, y compris des personnalités de gauche, disent qu'effectivement l'économie de marché, de toute façon, c'est la règle, et ne la rejettent plus aussi violemment en tous les cas que ce qu'ils ont eu l'occasion de la rejeter précédemment. Et l'économie de marché, c'est d'une certaine façon le libéralisme. Et le libéralisme ne va pas sans la responsabilité. Or, c'est effectivement cela que nous souhaitons mettre au cœur du dispositif, au cœur du patronat. C'est oui pour la liberté, mais oui aussi pour la responsabilité. Il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et cela va ensemble.
Donc vous êtes formel, responsabilité sociale et libéralisme ne sont pas incompatibles.
Absolument pas, au contraire, elles vont de pair.
Je crois qu'il est temps que l'UIMM passe à autre chose, clairement et nettement, et vienne, au contraire avec moi, fonder, construire le patronat du 21e siècle.
Est-ce qu'on n'a pas atteint ce soir un point de rupture ?
Non, il est évident que je ne veux pas
tombée de Carrie Bansila. Nous avons eu déjà un certain nombre d'affaires. Je veux que les personnes qui représentent toutes les entreprises de France dans des institutions paritaires soient au-dessus de tout soupçon.
Au-dessus de tout soupçon. Parfait, bravo, on applaudit bien fort. Manque de chance. Manque de chance, on entend déjà des rumeurs, des choses quand même très curieuses. Très curieuses. Il y aurait une affaire un petit peu bizarre concernant une entreprise qui s'appelle Phone City, une plateforme téléphonique spécialisée dans la réalisation de sondages, qui aurait été condamnée par les prud'hommes. Oh, mais qu'est-ce que c'est Phone City ? Eh bien, Phone City, c'est une filiale à 100% de l'IFOP. Et l'IFOP, jusqu'en janvier dernier, était dirigée par Laurence Parisot. Oh ! Alors, pour en savoir plus, on est allé voir Le Canard Enchaîné. Vous savez, ce journal qui paraît le mercredi et qui nous apporte quelques précisions.
Alors, Jean-François Julliard, vous êtes journaliste au Canard Enchaîné, où nous nous trouvons en ce moment. Alors, la raison pour laquelle on est venu vous voir, Jean-François Julliard, c'est que nous, à la Basse Ijissu, on est quand même assez content de voir que ça y est, une page est tournée, et que enfin, en France, on va voir le règne de la transparence, de l'éthique et de la morale. Mais comme on peut pas s'empêcher de faire une petite enquête sur les gens qui nous promettent ça, on est tombé sur un papier à vous, un papier du 6 juillet 2005, dans lequel vous écrivez « Un méchant procès au prud'homme devait se tenir le 5 juillet, le matin même de l'élection à la présidence du MEDEF, et il risquait fort de ternir l'image de la toute nouvelle patronne des patrons. » Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passait ?
Ben, tout simplement, on avait été averti que Madame Parisot devait comparaître au tribunal des prud'hommes à la suite d'une plainte qui lui avait été intentée par une de ses employées qui était officiellement gouvernante ou maître d'hôtel, cuisinière chez elle. Le seul problème, c'est que cette personne était en réalité payé par une filiale de l'IFOP, l'entreprise de Mme Parisot, qui s'appelle Phone City. Et donc, elle recevait des fiches de paye illégales, puisqu'elles étaient à l'entête de Phone City, alors que cette personne était employée à plein temps au domicile de Mme Parisot.
Donc vous nous dites que Laurence Parisot faisait des faux contrats de travail, des fausses fiches de salaire ?
Un faux contrat de travail, des fausses fiches de paye, et lorsqu'elle l'a licencié, puisque le litige est arrivé à ce moment-là, elle a rédigé une fausse lettre de licenciement.
Bon, alors comment ça s'était réglé à l'époque ? Est-ce qu'elle a été condamnée ? Qu'est-ce qui s'est passé au prud'homme ?
Ben, il y a eu un coup de théâtre, hein, c'était le 5 juillet 2005. Le procès devait avoir lieu, et au dernier moment, quelqu'un est arrivé avec une lettre qui disait que Madame Corinne, elle, c'était le nom qu'on lui a donné à l'époque, se désistait de sa plainte, alors que pourtant elle demandait 20 000 euros de dommages et intérêts. Donc d'un seul coup elle demandait plus rien. Et on s'est demandé ce qui s'est passé. Et on a risqué une interprétation évidemment un petit peu persifleuse, mais qui était de dire que peut-être c'était la conséquence d'un chèque reçu en dédommagement pour éteindre la plainte.
Alors nous qui venions ici pour être rassurés sur l'avenir que pouvait nous promettre Laurence Parisot, vous nous inquiétez finalement.
Oui, mais ça c'est parce que vous êtes d'incorrigibles pessimistes, ce qui n'est pas le cas du Canard Enchaîné. Nous, on croit à l'amélioration de la race humaine.
Alors on est venu prendre le thé à la menthe avec Salim et David, qui ont une bonne nouvelle à fêter la semaine dernière, puisque vous venez de remporter, en tout cas une première étape, dans un procès au prud'homme contre Phone City. Et Phone City, c'est pas n'importe quelle entreprise, puisque c'est une filiale de l'IFOP, et l'IFOP, c'est l'entreprise de Laurence Parisot. Vous avez travaillé combien de temps à Phone City ?
4 ans, donc de 2000 à 2004. Aujourd'hui, je travaille au sein d'une entreprise d'Arty. J'ai 26 ans, cette année.
Et vous, David, combien de temps vous avez passé à Phone City ?
J'ai travaillé à peu près 3 ans chez Phone City, donc je crois que c'était de 2001 à 2004.
Et aujourd'hui, vous faites quoi ?
Je suis dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. J'ai 30 ans cette année.
Bon alors, David, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que vous étiez au prud'homme contre Phone City ?
Pour le gros du dossier, c'est pour avoir été vacataire pendant plusieurs années. On signait des contrats tous les jours. Par contre, il y a des périodes pour lesquelles on a travaillé, on a des fiches de paye, mais on n'a pas de contrat signé.
Et vous, Salim, ça vous est arrivé aussi, ça ?
Ah oui, ça m'est arrivé. J'ai signé, sur une durée de 4 ans, j'ai dû signer plus d'une trentaine de CDD. Oui. Un de mes collègues aussi qui mène un combat avec nous, qui depuis 96 signait ces mêmes contrats, effectivement.
Mais Laurence Farizeau, elle devait pas savoir que ça avait lieu ce genre de choses. Enfin, quand même, elle a un poste de responsabilité.
Je doute qu'aujourd'hui, un PDG qui a une entreprise comme l'IFOP ne sache pas les pratiques qu'il y a au sein de son entreprise. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, qu'elle le sache ou qu'elle le sache pas, elle en est tout à fait responsable.
Alors qu'est-ce qu'ils disaient les délégués syndicaux dans l'entreprise, des conditions de travail, de la façon dont on était embauché?
Ils disaient rien parce que il n'y en avait pas.
Donc le dialogue social à la Parizeau, ça passe pas forcément par la présence de syndicats?
Je dirais que le dialogue social à la Parizeau, ça va dans un seul sens. C'est les salariés qui écoutent et la patronne qui s'exprime.
Le monologue social.
Exactement, on peut parler de monologue social.
Non, mais elle le savait peut-être, mais inconsciemment. Inconsciemment, Madame Parizeau. Alors, mais bon, transparence, on continue l'enquête.
Salim, vous avez prononcé deux mots qui sont importants dans la bouche de Laurence Parizeau. Vous avez dit « code du travail » et vous avez dit « précarité ». Code du travail, quand on s'appelle Laurence Parizeau, on n'aime pas. Elle nous a expliqué « la liberté d'entreprendre » s'arrête là où commence le code du travail. Par contre, précarité, on aime. Elle a dit, la vie, l'amour sont précaires, pourquoi est-ce que le travail ne le serait pas? Alors, la question qu'on a envie de vous poser à Salim, David, peut-être que vous êtes un peu archaïque, peut-être que votre conception du travail, de la façon dont on est embauché dans une entreprise est archaïque, il faut vous moderniser un peu les gars, non?
Non, pas du tout. Non, je pense qu'effectivement aujourd'hui on n'est plus il y a 200 ans, où on n'est plus comme certains pays effectivement malheureusement du monde. On est en France, on est un des pays où effectivement on est le seul pays à avoir les prud'hommes et avoir aujourd'hui des personnes se sont battues pour avoir des droits, des personnes se battent encore et il faut se battre pour les faire respecter. Parce qu'effectivement aujourd'hui c'est les entreprises actuellement qui se développent et il n'y a plus d'épanouissement personnel parce qu'aujourd'hui on est pris, on a la gorge au cou face à ce genre. Si effectivement aujourd'hui le monde du travail est résumé par ce que dit Laurence Parizeau, on a vraiment des soucis à se faire.
Dans la vie, pratiquement tout est précaire. La santé c'est précaire, l'amour c'est précaire, malheureusement parfois. L'entreprise, c'est précaire, c'est fragile. Les choses peuvent être fragiles pour le salarié. Pratiquement tout est précaire.
Bah oui, précaire. Tout est précaire. Le salarié est précaire. Le patron est précaire. Ouais. Par exemple, à Aulnay-sous-Bois, comment Mohamed Kenich, au téléphone, réagit après la révélation par le journal du dimanche du 8 avril que Peugeot Citroën Aulnay avait perçu 500 000 euros de la part de l'UIMM pour tenir lors de la grève de février-mars 2007. Vous vous souvenez si vous avez écouté les épisodes précédents.
Bon, alors Mohamed, tout ça, normalement, c'est fini. L'UIMM s'est doté d'une nouvelle direction. Ce n'est plus Denis Gauthier-Sauvagnac, mais c'est Frédéric Saint-Jour qui nous est présenté comme un monsieur propre et qui nous assure que, voilà, maintenant, l'UIMM est sur la voie de la modernisation, de la transparence et de l'éthique. Sauf que, Frédéric Saint-Jour, à PSA Peugeot Citroën, on le connaît bien, parce qu'il est membre du directoire de PSA, et que donc, ce que nous apprend la confirmation que PSA a bien touché de l'argent de l'UMM, c'est que celui qu'on nous présente comme un monsieur propre aurait finalement les mains pleines de cambouis. Alors ça, c'est pas vraiment rassurant, c'est même plutôt inquiétant, non?
C'est très inquiétant. Je pense à son niveau, je pense que tout se sait. Donc je ne pense pas qu'il peut ignorer l'existence de ce gros chèque. C'est impossible.
Ah. Alors, l'enquête continue. Conclusion provisoire avec Éric Decouty, je le rappelle encore une fois, ancien du Figaro et grand reporter à Marianne et révélateur de cette affaire en septembre 2007.
Alors, justice aux ordres, politiciens impliqués dans des affaires de financement, des syndicats aussi. On a du mal à croire que c'est de la France dont vous nous parlez. Là. On n'a pas du tout cette image d'un pays dont on nous dit qu'on le met sur la voie de la modernité, de la transparence et de l'éthique.
Ah bah écoutez, oui, pourtant de ce dont on vient de parler, ce ne sont que des faits. C'est pas de la glose sur la base de rien. Ce ne sont que des faits. Et les faits sont têtus. Et ça donne l'impression d'une démocratie qui est assez mal en point. Parce qu'une rénovation, une renaissance ne peut se faire que sur des bases saines. On dit ça souvent dans les discussions. Moi, je veux bien entendre les gens de l'UMM aujourd'hui ou du patronat en disant c'est fini et on va partir sur des bases saines. Sauf qu'on ne part jamais, on ne construit jamais quelque chose sur un tas de fumier. Si l'affaire n'avait pas été révélée, il continuerait peut-être encore. Donc, il y a une nécessité, si il doit y avoir refondation, rénovation, restructuration, je ne sais quoi, ça ne peut se faire que sur la base de la révélation de ce qui a été, ce qui a dysfonctionné ou de ce qui a été pourri pendant toutes ces années.
Assez de pognon pour moi, assez de pognon, pour moi je n'ai pas. Assez de pognon pour moi, assez de pognon, mais je vais comme ça. Mes mains dans les poches, sous le ciel au-dessus de moi. Que le ciel soit contre soi, poche, ciel ne rapporte pas. Assez de pognon pour moi, assez de pognon, mais je vais comme ça. Les mains dans les poches, je m'aimais pas dans mes pas. Jamais le monde s'y accroche, mes pas ne rapportent pas. Assez de pognon pour moi, assez de pognon, mais je vais comme ça. Je n'ai pas assez de pognon pour toi, assez de pognon, mais je vais comme ça. L'affiche qu'on accroche sous le ciel au-dessus de moi affiche un monde bon, riche et moche, un monde où je rapporte pas assez de pognon pour toi, assez de pognon, mais je vais comme ça. Les mains dans les poches, dans les rumaines, mais pas que la faim ou le froid m'accroche, mais pas ne rapporte pas assez de pognon pour moi, assez de pognon, et je vais comme ça.
Assez de pognon. Assez de pognon, assez de pognon,
donne-moi.
Assez de pognon, assez de pognon, assez de pognon,
paye-moi.
Assez de pognon, assez de pognon, assez de pognon,
achète-moi pour.
Assez de pognon, assez de pognon, assez de pognon,
au revoir, au revoir.
Merci à tous, merci à Éric de Couty, Roland Museau, Arnaud Delaunay, Norbert Borderu, merci à Mohamed Kemich, Roger Gimnez, Salim Raïs et David Menioubou. C'était un reportage de Renaud Lambert, à lire de Gérard Filoche, Les caisses noires du patronat aux éditions Jean-Claude Gavzevitch et Daniel Fraboulet, Quand les patrons s'organisent aux éditions Septentrion. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, avec les trois émissions précédentes. Évidemment, l'enquête continue et on suit cette affaire de l'UIMM. Je rappelle pour dimanche prochain sur le plateau des Glières à 11h, résistance d'hier et d'aujourd'hui autour des valeurs du CNR en présence de Stéphane Hessel qui parlera. À la technique aujourd'hui, Farid Chibani et Julien Chabassu, Yann Chouquet et Koy Nguyen ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry, qui attend vos messages au répondeur de la BASI. J'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.